Et vous le disiez, Joe, dans les titres du journal, un accord qui donne de l'inquiétude en Israël. On va y revenir justement sur cet accord entre les États-Unis et l'Iran et de voir un petit peu le point de vue israélien. Et ce, avec notre invité qui n'est autre que Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Je vous laisse bien entendu parler de cela avec lui.
Raphaël Jérusalmi, bonjour et Boker Tov.
Boker Tov.
J'aimerais avoir votre réaction sur l'accord conclu donc cette nuit entre les États-Unis et l'Iran, tout simplement.
Un accord catastrophique pour tout le monde sauf l'Iran, mais même pour les Américains, et puis surtout un accord qui est en fait une trahison de trois peuples. Trump, cette nuit, en fait, a trahi avant tout le peuple iranien, ensuite le peuple libanais et enfin le peuple israélien, dans un accord très bizarre d'ailleurs, car deux parties signent un accord imposant des conditions à une tierce partie qui n'en était pas partie prenante. Donc c'est absolument aberrant, mais c'est un accord absolument catastrophique.
Est-ce que les concessions accordées par les États-Unis à l'Iran affaiblissent aussi la position israélienne dans la région ?
Oui, dans la mesure où elle renforce surtout la position iranienne. D'une part, le régime iranien va devenir plus puissant qu'il ne l'était, plus fanatique encore qu'il ne l'était, avec beaucoup d'argent, des milliards de dollars qui vont affluer, qui vont être libérés et affluer dans les caisses des gardiens de la révolution. C'est un renforcement aussi des proxys, puisque les proxys ne sont pas inclus dans l'accord, donc le Hezbollah, le Hamas, tout ça va continuer comme avant avec ces milliards en plus. La menace des missiles balistiques n'a pas été prise en compte. En fin de compte, rien n'était pris en compte à part la libération de la circulation dans le détroit d'Ormuz et une vague promesse des Iraniens de ne pas avoir de bombes atomiques. À part cela, l'accord, c'est tout simplement un accord acheté à coût de milliards de dollars par Donald Trump.
Est-ce que cela va obliger forcément Israël à mettre fin à ses combats au sud Liban et dans la bande de Gaza? Et comment Israël peut tirer profit, si elle peut tirer profit de cette situation?
C'est le moment de vérité pour Israël, et face au fait que d'une part nous avons un président américain qui n'est pas tout à fait mentalement normal, et que nous risquons d'avoir un prochain gouvernement qui ne soit pas pro-israélien à Washington. Il faut s'habituer donc à faire cavalier seul, à se débrouiller sans cet appui américain. Est-ce possible? Je l'ignore, mais de toute façon nous n'avons pas le choix. Je pense qu'Israël, dès maintenant, c'est justement maintenant que nous avons encore plus ou moins le pouvoir militaire de notre côté et que les gardiens de la révolution sont quand même encore sous le coup de la grande offensive qui a eu lieu, c'est maintenant qu'il ne faut absolument pas obtempérer aux injonctions de Donald Trump. C'est maintenant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu doit tenir bon et inclut surtout prendre en priorité la sécurité des habitants du nord d'Israël. En gros, il y a quand même ici un échec total de la politique de Donald Trump et de l'offensive américaine et un échec relatif de la politique de Benjamin Netanyahu face à la Maison Blanche. À lui maintenant de colmater tout cela en tenant bon et en refusant, malgré les insultes et les invectives de Donald Trump, d'obtempérer aux injonctions de Washington.
Est-ce que vous pensez que Tsahal préserve tout de même une certaine liberté d'action contre l'Iran? Et cette situation peut aussi profiter, comme vous l'avez aussi dit, Raphaël, peut profiter à Benjamin Netanyahu auprès de l'opinion publique israélienne en vue des élections, sans rentrer dans le débat politique. Je sais que vous n'appréciez pas rentrer dans ces débats-là, Raphaël, mais c'est une question que l'on se pose aussi ce matin.
Moi, je ne vois pas très bien comment Benjamin Netanyahu peut capitaliser sur ce qui est en train de se passer. Je vois plutôt que lui, il a joué la carte Monsieur Sécurité et qu'au bout de 2 ans et demi, non seulement il n'assume pas la responsabilité qu'il a dans ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, mais en plus, si vous regardez bien tous les théâtres d'opération, il n'a pas réussi une seule fois à capitaliser sur les acquis militaires de Tsahal. Les Israéliens, je pense, commencent à le voir. On le voit dans les sondages, donc je ne donne pas mon opinion personnelle. Les sondages en Israël montrent une baisse de popularité de Benjamin Netanyahou. Et il manque de confiance surtout, et ça c'est peut-être moins politique et plus sociologique, un manque de confiance des Israéliens dans la politique en général, dans les dirigeants de tous les partis politiques, alors que la confiance a complètement été regagnée en Tsahal et en nos soldats.
Raphaël, certains commentateurs de la vie sécuritaire et de la vie politique en Israël affirment que la situation militaire israélienne est meilleure qu'avant le 7 octobre, puisque Tsahal est présent tout de même au sud du Liban et présent aussi dans une partie de la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion?
Oui, je suis tout à fait d'accord sur le plan militaire, c'est vrai. Tsahal a réussi à tenir le coup sur plusieurs théâtres d'opération, à s'imposer sur le terrain, à contrôler des franges du côté de Gaza, du côté du Sud-Liban, qui permettent de protéger mieux l'intérieur du pays et sa population. Tsahal a montré sa puissance de frappe à distance contre l'Iran. Et je pense qu'il est temps que Tsahal puisse agir beaucoup plus librement, n'ait plus les mains liées comme ça a été plein de fois par le passé et par le gouvernement. Le nombre de fois où le gouvernement n'a pas donné le feu vert pour des éliminations ciblées ou des...
Raël, souci technique.
On va essayer de
retrouver. On a perdu Raphaël.
Ça a été coupé, je pense, mais voilà, je pense que Raphaël est de retour. Voilà, Raphaël. On a été coupé.
Ah bon. Je pense donc que ça, là, des acquis militaires importants, comme je l'ai dit, sur lesquels on aurait dû capitaliser, mais en tous les cas, Tsahal aujourd'hui est dans une position stratégique militaire qui fait que l'on doit frapper. Il est absolument hors des questions pour Tsahal de s'abstenir de frapper au Liban, là et où et quand il le faut. C'est pour la sécurité des citoyens d'Israël. La même chose à Gaza. Mais je pense véritablement, ça peut paraître choquant, que nous devons frapper aujourd'hui à Téhéran et nous devons saboter l'accord américano-iranien. Ça nous coûtera très très cher, ça coûtera très très cher au Proche-Orient et en fin de compte au monde entier, car l'Iran est une puissance néfaste et extrêmement dangereuse. Il est absolument inacceptable de laisser passer cet accord sans réagir. Il faut attaquer, car si nous attaquons maintenant, nous pouvons retarder d'un an ou deux cette menace balistique iranienne et nous préparer, nous, à avoir une plus grande autonomie sur le plan de la production d'équipements militaires pour pouvoir faire face à un Iran renforcé.
Israël a les moyens de mettre en péril, si elle reprend ses frappes contre Téhéran, elle a les moyens de mettre en péril ses relations avec les États-Unis.
Ces relations en ce moment entre les États-Unis sont véritablement lamentables, et donc Donald Trump a fait quelque chose ici qui est une trahison d'Israël. Il n'a pas pris en compte du tout la sécurité. Le fait qu'il demande à Tsahal d'évacuer le sud Liban, ça veut dire qu'il est prêt à sacrifier la population du nord d'Israël. Il y a ici quelque chose que je ne m'explique pas, quelque chose de complètement aberrant, et Israël ne peut pas et n'a pas le choix. Si on avait le choix de tempérer avec la Maison Blanche, on le ferait. Nous n'avons pas le choix, car dès que nous baisserons la garde, nos ennemis, eux, s'empresseront de nous attaquer, et l'Iran en premier. Et donc, on va être obligé, à mon avis, la véritable solution, c'est d'interdire la poursuite de ce dialogue entre Téhéran et Washington. Il faut absolument que ce régime soit affaibli, ou même à Téhéran, ou même supprimé. Tant que cela ne sera pas fait, il n'y aura aucune sécurité pour l'État d'Israël. Nous serons en danger existentiel. Il n'y a pas ici à hésiter une seconde.
Votre dernière question, Raphaël. Pensez-vous qu'il est impossible de penser qu'au terme des deux mois de discussions qui vont arriver entre les États-Unis et l'Iran, il est impossible de voir Donald Trump reprendre ses frappes contre l'Iran? C'est une vue de l'esprit?
C'est une vue de l'esprit, dans la mesure où on rentrera vers l'époque du mid-term. De toute façon, les 60 jours à mon avis, seront au moins 120 jours. Les Iraniens feront tout pour prolonger la sauce et demander encore quelques milliards de dollars dans la foulée. Donald Trump, l'armée américaine, d'ailleurs, si je ne m'abuse, ce qui vient d'être rendu public sur à propos de l'accord, c'est un retrait des troupes américaines de la région. Ça inclut un retrait des troupes américaines, alors revenir à la charge. En plus, je ne sais pas si le commandant de CENTCOM y croit encore, après lui aussi, hein, comme Tsahal, avoir été interrompu en plein élan d'une grande victoire militaire.
Il a été aussi désavoué, Raphaël, le chef du CENTCOM, Brad Cooper. Il a été désavoué dans ses options stratégiques.
Oui, mais exactement. Donc ça montre à quel point les Américains ont perdu la guerre et les Iraniens, en tous les cas les gardiens de la révolution, se réjouissent à juste titre. Je n'arrive pas à comprendre ce retournement soudain de la stratégie de Donald Trump. Pourquoi tout d'un coup il laisse tout tomber, se dégonfle et donne à ce régime tout ce qu'ils veulent. J'imagine qu'il a peut-être passé une sorte d'accord tacite avec Pékin. Sa rencontre en Chine a dû changer quelque chose.
En fait, Jérusalem, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.